Chapitre 17, l'évangile de Jean, chapitre 17. Verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi, de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues, et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Et maintenant, les deux versets qui nous concernent ce matin. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ce que tu m'as donné. Je les ai préservés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le Fils de la perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Père Saint, garde-les en ton nom. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire d'être gardé dans le nom? Ont son nom. Sinon, nous avons besoin justement de nous arrêter là. Parce que c'est lorsque nous glissons sur des choses que nous ne comprenons pas, que nous perdons beaucoup, n'est-ce pas, les amis? Est-ce que vous connaissez le nom de Dieu? Quel est son nom? El Shaddai, Adonai, Yahvé, si connu. Le Seigneur, notre justice, excusez-moi pour la mauvaise prononciation, Pierre. Yahweh, Meko Dishem, le Seigneur qui nous sanctifie. Yahweh, Yireh, le Seigneur qui pourvoit. Yahweh, Shalom, le Seigneur, notre justice.
Notre paix.
Pardon. Shalom, notre paix. Merci, reste là. Et ainsi de suite. Le Seigneur s'est donné beaucoup de noms, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a une raison pour cela? Vous avez une feuille avec vous et vous voyez qu'il y a quatre choses que nous devons comprendre ce matin en cherchant la face de Dieu par rapport à cette réalité précieuse d'être gardé en son nom. Le premier, c'est que Jésus nous a révélé le nom de Dieu son Père. Remontez au verset 6 du chapitre 17, s'il vous plaît. Avant de prier, garde-les en ton nom. Jésus avait dit au Père ceci, « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. » Et comme nous avons déjà vu dans les semaines précédentes, que le nom de Dieu, c'est son caractère, manifesté, c'est pas son caractère, C'est son caractère manifesté. Dieu ne prend jamais à lui-même un nom vain. Il ne se donne jamais un nom qui ne nous dit rien au sujet de comment il est. Alors, mon nom, c'est un nom vain. Enfin, pour vous, David, ça ne veut rien dire pour vous. David, qu'est-ce que ça veut dire, David? Ça ne veut rien dire. Bon, ça veut dire quelque chose dans une autre langue, mais en français, ça ne veut rien dire. Ce nom, c'est une étiquette que je porte, mais qui ne vous donne aucune information de à qui vous avez affaire lorsque vous avez affaire avec moi. Comment est-ce que je suis? Gentil, méchant, fidèle, infidèle, menteur, honnête. Le mot ne vous aide pas. Mais les noms de Dieu, tous les noms de Dieu que Dieu lui-même s'est donné pour les hommes, sont des noms qui communiquent, qui nous mettent au clair, qui nous mettent dans l'assurance, dans la connaissance. On sait maintenant qui il est. Je vous donne un petit exemple. Ne tournez pas, mais je vais vous lire que, si vous voulez, à l'autre côté de votre feuille, vous avez ces passages. On va lire Exode chapitre 33 et quelques versets, et quelques versets dans le chapitre 34. Lisez avec moi. Moïse dit donc à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Vous avez compris? Dieu dit, « C'est mon nom. C'est de mon nom que vous avez besoin. Tu dis, « Montre-moi ta gloire. » Alors moi, pour te montrer ma gloire, je vais proclamer mon nom. Parce que mon nom explique ma gloire. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel passa devant lui et s'écria. L'Éternel, ce qui veut dire le « je suis ». Je suis Dieu miséricordieux et compassion. Il est en train de proclamer son nom. C'est un nom assez long. L'Éternel, je suis Dieu miséricordieux et compatissant. Lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'aux 1000 générations. Ça, c'est son nom. Qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Son nom. Dieu saint est plein de grâce et d'amour. Quand des gens connaissent le nom de Dieu, dans le sens biblique, parce que la Bible parle de ceux qui connaissent ton nom. Quand vous êtes quelqu'un qui connaît le nom de Dieu, l'identité, le caractère, comment est Dieu, qu'est-ce qui arrive? Vous êtes quelqu'un qui n'a pas simplement quelque chose ici, vous savez le mot utilisé quand vous voulez évoquer Dieu, le nom, ah je sais son nom, c'est... Ce que vous savez, c'est de manière expérientielle. Vous savez au fond de vous, vous êtes convaincu de comment est votre Dieu. C'est ça, connaître le nom de Dieu. Alors, je veux vous le prouver. Regardez Ésaïe 52, 6, qui est sur le dos de la feuille. Ésaïe 52, 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle, me voici. C'est-à-dire que quand vous connaissez le nom de Dieu, vous le connaissez à partir de lui. Vous savez que c'est lui qui vous a dit qu'il était comme ça. Ce n'est pas un homme que vous pouvez douter. quand vous, mon peuple connaîtrait mon nom et ils vont savoir que c'est moi-même qui s'est montré, qui a dit, je suis comme ça. Ne le doutez pas. Ou bien le psaume 9 que vous avez sur la feuille, l'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Si je vous dis, vous êtes de ceux qui connaissent le nom de l'Éternel, je suis en train de dire que vous êtes de ceux qui sont tellement convaincus que Dieu est amour, fiable, saint, juste, puissant pour vous, que vous ne pouvez que vous confier en lui. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. C'est pour cela que nous avons un des versets merveilleux au sujet du nom de Dieu qui, dans les Proverbes 18-10, vous l'avez sur la feuille, le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. J'aime pas beaucoup la traduction. Une autre traduction dit, le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste court là-dedans et se réfugie. Voilà. Le nom de l'Éternel, c'est-à-dire son caractère qu'il a fait connaître à vous jusqu'au point où vous en êtes sûr. Maintenant, je suis en train de tâcher de vous dire que le nom de Dieu n'est pas un nom que vous donnez à Dieu en espérant qu'il va être comme ça. D'accord? C'est rien de tout cela. Le nom de Dieu, c'est ce qu'il est réellement et manifestement. Je vous donne un petit exemple. Dans le domaine du sport, nous avons des athlètes qui ont des surnoms, n'est-ce pas? Ribéry, on a un. Sébastien Chabal, on a un. Je ne vais pas vous dire tous leurs surnoms, vous pouvez aller chercher. Mais je vais vous parler de quelques basketteurs. Michael Jordan est peut-être le basketteur le plus exalté de tous les temps, en tout cas dans les cinq premiers. Et il avait un surnom. Alors, il s'appelait Air Jordan, comme Air France. D'accord? Vous avez des compagnies aériennes. Tout le monde dans son équipe appelait Michael Jordan Air Jordan. Pourquoi? Parce que il avait manifesté dans les matchs qu'il avait une détente incroyable pour les sauts et c'est presque comme il volait. Si vous l'avez joué, c'est incroyable le temps qu'il reste dans l'air. On se demande comment il le fait. Air Jordan. D'accord? Et Michael Jordan n'a pas pu gagner son nom parce qu'il a fait ça deux ou trois fois. Un surnom ne se gagne jamais comme ça. Deux ou trois fois, par accident, il a presque volé. Non. Un nom se gagne parce que quelqu'un manifeste qu'il est comme ça tout le temps. D'accord? Je vous donne un autre exemple. Un des plus grands basketteurs qui vient de mourir dans un accident horrible qui s'appelle Kobe Bryant. Alors, Kobe Bryant, son surnom, c'était The Answer, la réponse. Imagine ça. Tu t'appelles la réponse. Pourquoi? Parce que encore et encore et encore et encore et encore dans les matchs, lorsque son équipe était face à un problème indissoluble de la part de l'adversaire, quelle était la réponse? Kobe Bryant était la réponse. Il a tout changé. Il a tout dénoué en jouant. Un dernier exemple, Karl Malone, qui était un autre grand joueur, s'appelait le facteur. Pourquoi le facteur? Parce qu'encore et encore, constamment, 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 il délivrait au moment opportun. Lorsqu'on avait besoin d'un panier, de marquer des points, donne le ballon au facteur. Et il va le mettre dans la boîte. Et il le mettait dans la boîte. C'est le facteur. Ce sera délivré. La livraison sera faite. Ne vous en inquiétez pas. Voilà. Mais ce que je veux vous dire à ce sujet, c'est que Dieu a ses noms parce qu'il a montré dans l'histoire et à travers Jésus-Christ, encore et encore et encore et encore, je suis ce Dieu qui sauve. Donc, le nom de Dieu est une étiquette qui est placée sur une réalité qu'on ne peut pas nier. On est obligé de l'appeler comme ça. Et vous comprenez bien que c'est surtout Jésus qui a manifesté le nom de Dieu. Étant Dieu lui-même, lorsqu'il a pris la chair et le sang, nous avons pu voir le nom de Dieu et entendre le nom. Imaginez que vous êtes un de ses disciples pendant ces 3 ans. Tous les jours, qu'est-ce que vous voyez? Vous êtes en train de voir constamment Jésus qui chasse des démons, qui terrasse le mal, qui sauve les malheureux, qui touche le cercueil et relève le mort et lui donne à sa maman, n'est-ce pas? Qui console la prostituée repentie. Constamment, vous êtes en train de voir des choses, mais pas possibles. Glorieusement bon, glorieusement puissant, glorieusement plein de grâce. Vous êtes en train de voir le nom de Dieu affiché devant vous tous les jours pendant 3 ans. J'ai manifesté ton nom à ce que tu m'as donné. Donc, ça, c'est de loin le point le plus long. Donc, on avance au deuxième point. Jésus a manifesté à vous comment Dieu est exactement. Si vous trouvez un Dieu quelque part qui ressemble à Jésus, jette-le dans la poubelle. Parce que ce n'est pas le vrai Dieu. Le seul Dieu qui est, s'est manifesté comme étant exactement comme Jésus. Celui qui m'a vu a vu le Père. Deuxième point. Nous sommes gardés dans le salut et pour la vie éternelle dans le nom du Père et du Fils. Lisez avec moi encore les versets 11 et 12. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde et moi je vais à toi, Père Saint. Garde-les non pas par ton nom, mais garde-les en ton nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Alors, chers chrétiens, vous et moi, nous sommes un peuple gardé. Je les ai gardés, Père, je les ai gardés, ils étaient un peuple gardé, préservé pendant que j'étais là. Maintenant, je m'en vais, garde-les, garde-les. C'est précieux, hein? Garde-les dans ton amour, garde-les dans tes bras. Si vous êtes chrétien, vous êtes quelqu'un qui est en train d'être gardé en croix, gardé dans le pardon, gardé dans un état réconcilié, gardé dans la croissance vers l'image de Jésus-Christ, gardé dans la joie, gardé dans la foi, préservé. Vous continuez à croire, à chercher, à aimer, à changer. Le royaume de Dieu continue à venir en vous. C'est ça, être gardé. C'est là où vous êtes gardé. Mais ce n'est pas simplement par le nom de Dieu que vous êtes gardé, mais dans le nom de Dieu. Pourquoi cette différence? Imaginez que Jésus avait dit, garde-les par ton nom. Le mot par signifie que quelque chose est un moyen. D'accord? J'ai. Oui. Si Jésus avait dit garde-les par ton nom, on pourrait penser que ça veut dire que, ok, ça veut dire que par le nom de Dieu, nous devons chercher tout ce que Dieu dit sur son caractère, et par ça, on mémorise bien, on réfléchit bien à ça souvent, 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 et comme ça, on est gardé dans la foi. On continue à être confiant. Le problème avec cela, et c'est une demi-vérité, le problème avec cela, c'est que c'est nous qui utilisons le moyen. Nous prenons le nom de Dieu comme si c'est une idée. Voilà une idée, le nom de Dieu, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Une idée qui est en dehors de nous. Et on se garde dans la foi en utilisant cette idée. Mais ce n'est pas vraiment ce que Jésus dit. Garde-les en ton nom. C'est comme si, d'abord, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est le Père qui le fait. Nous sommes à l'intérieur de. Vous savez, si vous voulez comprendre, le prisonnier, il est où? En prison. En prison. Et est-ce qu'il reste là? Oui, il reste là pendant sa sentence. C'est-à-dire, il est gardé. N'est-ce pas? Il est gardé en prison. Et est-ce que c'est lui qui se garde en prison? Non, pas du tout. Quelqu'un qui est gardé en quelque chose, il est l'objet, il n'est pas l'acteur. Père, garde-les dans la prison de ton amour. Garde-les dans la prison de ton plan, de ta sainteté. Et c'est comme si Dieu est constamment présent avec vous en tant que chrétien, et par la parole, par les prédications, par la prière, ça, il vous parle. Le Dieu vivant vous parle. Et il vous répète son nom, son caractère. Ne t'en fais pas. Je suis un secours présent au temps de la détresse pour toi. Je suis ta justice. Je suis la lumière pour ton obscurité. Je suis le cep dont tu es le sarment. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Et en parlant à nous constamment, Dieu nous garde dans son nom, comme une sorte d'environnement, d'atmosphère dans lequel nous vivons. Moi, je vis de jour en jour en tant que chrétien et toi aussi, je vis dans l'atmosphère de qui Dieu est. Chaque chose qui m'arrive, coronavirus, et quelle est ma réponse? C'est le nom de Dieu. Je vis à l'intérieur de ça et je dis, Dieu est souverain sur ma vie, complètement, complètement souverain. Il a déjà décidé le nombre de jours que j'aurai. Et il est bon envers moi. Il m'aime. Il contrôle tous les virus et tous les hommes du monde. Et donc, je réponds au coronavirus parce que Dieu est constamment en train de me dire et de me rappeler qui il est et que je suis emprisonné dans sa puissance, son amour, son soin. Lisez avec moi Nombre 6. Vous allez voir cela. Mais avant de lire, je vous donne le contexte. Dieu a dit dans l'Ancien Testament que à la fin de chaque sacrifice du matin et du soir, parce qu'au temple il y avait un sacrifice de matin et de soir, le sacrificateur qui amenait le sang à l'intérieur, quand il finissait dans la partie derrière le voile, il devait ressortir vers le peuple et il devait prononcer ces mots que je vais vous dire. D'accord? C'est comme s'il y a quelque chose qui découle du sacrifice et c'est une bénédiction qui découle du sacrifice. Donc, Mettez en votre tête cette scène du sacrificateur qui sort. Et maintenant, il dit ceci, Nombre 6. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et ses fils, donc les sacrificateurs, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz. Donc, quand vous sortez du sacrifice, chaque fois, matin et soir, matin et soir, matin et soir, ils entendent ceci. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Vous voyez? Nous sommes à l'intérieur d'un nom qui a été mis sur nous par une parole qui se répète constamment et qui nous dit, je lève ma face sur vous. Je fais luire ma faveur sur vous. Je tourne mon regard et mon soin vers vous et je vous bénis. Je suis comme ça envers vous. C'est ça mon nom. C'est incroyable ça, n'est-ce pas? Jésus est en train de prier que le Père continue ce qu'il faisait lui-même. Pour ses disciples, chaque jour, il voyait qu'il était ce sauveur qui faisait luire la faveur de Dieu, la patience de Dieu avec eux dans leur faute, hein, la puissance de Dieu dans leur faiblesse. Il était le Dieu qui, je suis là et je suis la réponse. C'est pas Kobe Bryant, c'est moi. Je suis la réponse suffisante. Troisièmement, étant gardés dans le nom du Père et du Fils, nous sommes gardés du monde. Le monde et sa manière de penser n'est plus votre adresse. Si vous êtes gardés dans cette connaissance de qui est Dieu, quand le virus Corona arrive, les gens du monde pensent d'une certaine façon. J'espère que le hasard sera favorable envers eux. Ou ils paniquent, ils essaient de contrôler la situation eux-mêmes. Mais nous n'avons pas de ces manières-là. Nous ne pouvons plus les avoir. Pourquoi? Parce que nous avons été séparés. Donc, qui nous sommes par cette révélation de qui Dieu est? Nous pensons de manière différente. Nous désirons des choses différentes. Nos buts sont différents. Nos priorités sont différentes. Et remarquez qu'au début de la prière du verset 11, regardez au milieu de ce verset, verset 11, Père Saint. Alors, vous savez, il est très rare que Dieu soit adressé comme ça dans le Nouveau Testament. Presque jamais. Père Saint. Mais Jésus a une raison pour dire Père Saint, parce qu'il est en train de penser à son Père comme celui, le mot Saint signifie séparé et autre. D'accord? Il est en train de penser à son Père comme celui qui est complètement autre, autre et séparé, différent, transcendant de ce monde par sa grandeur et par sa pureté. Il est complètement différent et autre. Et il dit, Père Saint, garde tes enfants aussi séparés, complètement différents dans leur manière de penser, dans qui ils sont à cause de leur connaissance de toi. Garde-les dans cette sphère saint dont tu es le centre toi-même. C'est ça. Et ton nom fais en sorte qu'ils soient la muraille qui les entoure et qui les sépare de la manière de vivre du monde. Je tire vers la fin. Quatrièmement, nous sommes gardés dans le nom du Père et du Fils. D'une manière qui nous engage et nous implique dans le processus. Voilà ce que je veux dire. Dieu, c'est Dieu qui te garde, mais il ne te garde pas sans que tu te gardes. Maintenant, regardez les deux derniers passages en Jude, sur le dos de votre feuille. Jude, chapitre 1, verset 1. Jude, serviteur de Jésus-Christ et le frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, ça c'est vous, hein? Vous avez été appelés au Seigneur, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Alors dans ce verset, qui garde? C'est Dieu. Vous êtes gardés. Vous ne gardez pas, vous êtes gardés. À vous qui êtes aimés et gardés par le Père. Mais si nous allons à la fin de l'épître, regardez les versets 20 et 21. Pour vous, bien-aimés, encore bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, gardez-vous. Qui garde maintenant? Gardez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Dieu vous garde dans la foi, dans l'amour, dans l'obéissance, attaché à lui. Il vous proclame constamment son nom par la parole, par les moyens de la grâce. Il est toujours en train de dire, rappelle-toi, je suis comme ça, tu peux te fier à moi. Cours, réfugie-toi en moi. Mais ça veut dire que vous êtes actif dans cette affaire, n'est-ce pas? Ce n'est pas mécanique, ce n'est pas je suis chrétien, que je le veuille ou non. Non, Dieu agit en vous, chers chrétiens, pour que vous ayez envie d'entendre le nom de Dieu, de lire au sujet du caractère de Dieu, de vous réfugier lorsqu'il vous rappelle qu'il est comme ça, n'est-ce pas? Ça, c'est le signe que vous êtes vraiment chrétien. C'est que vous répondez à son action. Et l'application de tout cela, la raison pour laquelle je vous parle de cela ce matin, c'est d'abord, vous avez, comme moi, nous avons besoin d'abord de chérir le fait que nous sommes des personnes gardées. À vous qui êtes bien-aimés et gardés par Dieu. Ok? C'est une relation juste merveilleuse. Si un homme épouse une femme et il lui dit je t'aime, et ça se passe un peu comme ça aujourd'hui dans les mairies, maintenant vous avez remarqué que ce qu'on dit, ce n'est pas une promesse au sujet de l'avenir où on fait un vœu. De rester marié jusqu'à ce que nous mourions, c'est simplement une affirmation du présent. Je t'aime, tu es mon. Enfin, j'exagère un peu, il y a un peu du futur, mais ça disparaît de plus en plus. Et surtout, le futur absolu n'est plus là, jusqu'à ce que nous mourions. Voilà. Dieu, quand il nous prend à lui, il prononce ce serment que personne ne vous ravira de ma main. Je vous aime pour toujours. Je vais vous garder. Père, garde-les, garde-les. Je ne peux pas supporter qu'il y en a qui s'en aillent. Ça ne peut pas. Et le Père dit, très bien, c'est pour ça que je t'ai envoyé. Pour qu'ils soient sauvés et gardés. Le Seigneur est comme cet aigle qui nous prend sur ses ailes et qui nous préserve. Et ça, c'est, nous sommes dans cette place, c'est ma place dans la vie avec le Seigneur. Et ça, c'est une bonne place. Parce que si c'est un peu comme ces mariages, je t'aime maintenant, dans 5 ans, on verra. Ça, qu'est-ce que ça vous fait? Ça me met dans une atmosphère, dans une sphère d'incertitude et de misère, en tout cas, si je peux faire partie d'une telle relation. Mais notre Dieu n'est pas comme l'homme. Il n'est pas comme l'homme. Ne le dites pas, chers amis. Ne le dites pas, ne le pense pas. C'est sa gloire d'être différent. Père, garde-les. Deuxième application, vous voyez à quel point il est important que vous vous appreniez plus sur le caractère de Dieu, le nom de Dieu, qui est-il, comment il est. Ça veut dire que vous devez lire la Bible comme quelqu'un à la quête d'un trésor. Et ce trésor, c'est moi, je veux voir Dieu. Montre-moi Dieu. J'aime bien le reste, mais montre-moi comment il est, qui il est. C'est ça que nous voulons faire. Montre-moi sa face. Je disais, les enfants étaient petits, parfois je jouais un jeu avec eux, on était sur le lit et on se bagarrait sur le lit, mais parfois je cachais ma face dans l'oreiller. Et ça les rendait fous. Ils essayaient de faire tout pour qu'ils puissent voir ma face encore. Parce que quand tu ne vois pas la face de quelqu'un, tu n'as rien. Tu n'as rien. Et nous voulons savoir le nom de Dieu. Oh, rappelle-moi ton nom. Dis-moi juste ton nom. Montre-moi ta face. Fais luire sur moi ton caractère. Manifeste cela à moi encore. Que tu es le sauveur des pécheurs. Redis-moi l'histoire. Nous devons lire la Bible de cette manière, mais aussi nous devons lire des livres sur les attributs de Dieu. Il y en a qui sont bons sur le marché français. Connaître Dieu de par cœur, que les dames ont étudié dans leur rencontre. Et il y en a d'autres aussi. Si vous voulez avoir des titres, venez me voir. Mais il est très important pour le chrétien de lire des livres sur les attributs de Dieu. Noël est en train de lire un livre sur un attribut de Dieu, la souveraineté de Dieu. Elle est en train aujourd'hui me dire que c'est bouleversant pour elle. Voilà, elle voit juste une partie du nom de Dieu, de son caractère. Et c'est tellement grand et majestueux que oui, c'est bouleversant. Mais elle prend le temps de lire tout un livre sur un attribut de Dieu. Imaginez. Et nous avons besoin de lire des livres comme ça. C'est ça le but principal du culte. Le but principal du culte, c'est que c'est comme un peu dans l'Ancien Testament, lorsque le sacrificateur ressort et il prononce le nom de Dieu. L'Éternel te bénisse et te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur Israël. Et lorsque vous entendez la parole, lorsque vous chantez les chants, lorsque vous priez, nous sommes fortement rappelés, n'est-ce pas? Quand Dieu est à l'œuvre, nous sommes fortement rappelés de qui il est. Et nous sommes de nouveau juste émerveillés. Et c'est ça le but principal. Vous savez, chers amis, que le reste de la semaine, vous devez vivre de ce qui se passe ici, solennellement et joyeusement ici, quand Dieu vous parle de son nom, un nom qui vous est donné. C'est ça qui nous transforme aussi. Parfois, les gens pensent qu'ils vont être transformés par toutes sortes de mélanges entre la psychologie moderne et le christianisme. Donc, il y a une sorte de mélange d'idées, un peu que vous entendez avec les sophrologues et puis un peu de Jésus là-dedans. Mais ce qui nous transforme le plus, c'est que nous tous, le visage découvert, contemplant la gloire de Dieu, nous sommes transformés dans la même image de gloire en gloire. Je viens de citer 2 Corinthiens 3. Donc, vous pouvez voir que pour toutes ces raisons, vous et moi, nous avons besoin de connaître le nom de Dieu. Ô glorieux nom. Nous allons chanter.